Pluriel Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Eh oui, nous sommes en ligne. Nous avons entendu le petit cri de jouissance de Laurence.
Non, pas de jouissance, non.
Si,
elle a fait. Miche, ah. La miche a sorti un truc de sa bouche. Je sais pas ce que je veux.
Un bon.
Ah.
Ah.
Heureusement qu'on n'a pas l'image.
Ouais, c'est encore pire.
Parce que les horreurs, on en a déjà vu, mais là, je crois que. On atteint le compte. Donc, non, mais je voulais dire un cri de jouissance, de joie de te retrouver à l'antenne et que ça marche.
Et que ça, oui, surtout ça.
Ça marche ce soir.
C'est surtout ça.
C'est ça qui est important.
On est ravis. Hein.
Ouais, on est ravis, ça marche.
Le taulier est tendu, mais non, il a l'air d'être détendu.
Non, ça va, là, on n'a pas de problème, on y est passé.
Oui, oui. Ça va, il y a un grand sourire. Ouais. Bernard, le taulier, donc, en question, dit aussi le poisson rouge.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à notre invité. Et je crois que pour cette dernière, ça va être bien chaud.
C'est bien parti.
Oui, c'est bien parti. Il faut dire qu'il fait chaud aussi à l'extérieur. Et du coup, on a gardé le ventilateur. Tu nous diras, Laurence, si ça te casse les pieds. Parce qu'au bout d'un moment, elle va
moi, je ne l'ai pas de mon côté, par contre.
Tu vas nous dire que tu en as marre.
Non, ça me frotte juste le bras.
Bon, très bien.
Voilà, donc, ça me va très bien.
Donc, j'ai à mes côtés Laurence, vous l'avez compris, ma collaboratrice de toujours.
Bonsoir.
Et Michel.
Bonsoir.
Qui, malgré...
Malgré.
Malgré le fait que ta voiture soit à genoux.
Je suis venu, je me suis battu dans le transport en commun.
Non.
Elle est en convalescence.
Voilà. Et donc, tu as affronté les périls de cette banlieue lointaine et dangereuse.
J'y suis arrivé, tu vois.
Au péril de ta vie, juste pour
mais
nous.
Mais de ma vie, vas-y. Ouais. Non, mais c'est vraiment plus ce que tu dis.
Oui, non, mais je sais. Venir du centre de Lyon jusqu'à Saint-Priest, c'est
une aventure.
Quelque chose.
Ah, c'est un peu du Koh-Lanta.
Un exploit.
Je connais.
Absolument. Et tout ça pour assister à la dernière de la saison de.
Bah, c'est pour ça, c'est pour la dernière, j'ai fait ça.
Ni sympa. Ça, c'est professionnalisme.
Ouais. Alors ça, franchement, c'est le prix Pulitzer en perspective.
Allez-y, allez-y. Faites-vous plaisir. Continuez ainsi, je suis bien. Je suis heureux, là.
Alors, notre invité du jour...
La Légion d'honneur aussi.
La Légion d'honneur, maintenant, elle est réservée aux Bleus.
Panthéon, tout ça.
Oh, Panthéon.
Le Panthéon, il faut être mort, quand même.
Oui.
Bah, dans 100 ans. Dans 100 ans.
Enfin, je vais passer à la télévision, mais personne ne me verra. Je serai encore dans la tombe. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais j'aimerais bien le Panthéon, si vous me le dites. Moi, j'y vais, hein.
Ah oui, si on propose, t'acceptes.
Mais ça va te coûter cher, toi. Je te
râle, oui. Ça coûte cher aux contribuables en général. Oui.
Bon, on va vous augmenter vos impôts, tu penseras à moi comme ça.
J'en arrive à mon invité, pauvre, qui lui aussi a fait un long périple pour venir jusqu'ici.
Oui.
Voilà. Alors, Jean-Michel Lacour, nous te connaissons déjà l'émission, puisque la tradition veut que tu termines la saison en général.
Voilà.
Il vient une fois par an. Mais il vient nous proposer les lectures de l'été,
voilà.
Qui est très important pour ne pas mourir idiot, bronzer idiot,
voilà.
mourir noyé idiot.
Voilà. Non.
Donc Jean-Michel, l'année dernière, tu nous avais fait un large panorama de différents livres que tu aimais, dont tu voulais parler. Tu t'es venu avec une sorte de bucket list, finalement.
Oui.
Les livres qu'il faut absolument avoir lus,
oui.
Si on est un bon PD ou une bonne lesbienne,
voilà.
qui tient la route. Voilà. Et cette année, on refait la même chose,
voilà.
Avec toi, Jean-Michel. Mmh. Alors, je tiens à préciser, avant de lancer, donc, non pas les bouquins, mais tes petites chroniques littéraires sur chacun des titres que tu nous as amenés, que tout à l'heure, nous entendrons aussi Yvan. Alors, il ne sera pas présent ici, Yvan Mitifio, physiquement, mais on l'aura en esprit.
Esprit es-tu là.
Esprit es-tu là. Parce que, donc, on va écouter une interview qu'il a effectuée auprès, oui, du réalisateur du film Les Sauvages. Le réalisateur du film Les Sauvages, je vais retrouver son nom, Camille Vidal-Naquet.
C'est Sauvage tout court, non?
Oui, c'est Sauvage.
Sauvage,
ouais. Oui, Sauvage tout court, c'est ça, exact.
Sauvage.
C'est pas Les Sauvages, Les Sauvages, ouais.
Christian, tu
vois. Pas de pub à l'antenne.
Excusez-moi. Il y a Alain Delon dans le film. Alain Delon d'époque ou non? Non.
Maintenant, bah, disons que c'est difficile parce que pour sortir de sa boîte, sortir
d'un mec.
Bref, alors, donc on aura donc l'interview tout à l'heure menée par Yvan.
Ah oui, tu dis vraiment interview
Esteban.
Tout le temps.
Oui, c'est
ah oui,
c'est
moi j'aime bien dire interview. Ouais, je sais pas pourquoi.
Interview.
Ouais, une interview.
Bon, c'était le même problème que moi. Okay. Interview.
Une interview. Ouais.
Interview, c'est bien.
Voilà.
Entretien, c'est mieux.
Oui, entretien.
Entretien, c'est
une conversation,
oui.
Un échange
oh,
aussi.
Une rencontre.
Oh, les gars, on est plus sous Giscard, hein, attendez-vous. Interview ou entretien.
Au revoir.
Et Dieu dans tout ça.
On pourrait convoquer un jour s'il accepte de venir parmi nous. Je signale en parlant de Dieu que j'ai demandé au cardinal, souvent Barbarin, cardinal archevêque de Lyon, de venir assister à l'émission.
Ah.
Il a jamais voulu.
Oh.
Non, il refuse. Voilà, donc je lui dis, mais pourquoi ?
Mais parce il est pas en prison ?
Non, parce que, non bah, attends, avant qu'il soit en prison, justement, je lui dis, avant d'aller en tôle.
On pourrait l'interviewer en tôle ?
Ah, ben oui, on lui
apporterait des émissions. On pourrait faire une émission exceptionnelle. Ah, ouais. On pourrait l'interviewer en tôle, tous ses copains qui y sont déjà.
Ouais. Peut-être que lui, s'il va en tôle, il trouverait enfin l'homme de sa vie.
Ça serait cool. Vous êtes dur.
Bon, alors du coup, on va revenir à Jean-Michel.
J'aime bien Jean-Michel parce qu'il dit les petits commentaires, tu sais, comme ça. T'entends
oui, oui, oui. Mais ça, c'est Jean-Michel.
N'hésite pas, hein, Jean-Michel.
Jean-Michel, c'est un homme de très, très grande culture, littéraire et autre, qui est professeur de lettres, qui a eu les palmes académiques, non, j'ai n'importe quoi, là. qui a quand même enseigné au lycée français de Los Angeles.
Yeah.
Bon, yeah. Pas des invités de merde.
You speak English, Jean-Michel? Voilà.
Yes, I do. Oh.
Ah, c'est très simple, yes, I do.
Yeah.
Tout le monde comprend.
Et donc, c'est un spécialiste, on l'a compris, donc de la littérature en général, de toutes les littératures, parce que toi, t'aimes tout ce qui est bien écrit, avec de belles histoires, et donc tu nous as apporté des livres pour l'été à nouveau.
Voilà.
Et je suis curieux de savoir. Alors, je n'ai pas voulu savoir avant, pour qu'on ait tous la surprise de découvrir les livres que tu nous as apportés.
Moi, j'ai regardé.
Le but, ça va être de. T'as regardé ?
Ah, bah oui.
D'accord. T'en connais beaucoup de ce qu'il a amené dans le listing ?
Il y a le premier, j'ai compris le titre. En voyant le titre, j'ai compris le thème du livre.
Ouais.
Il y en a un que j'ai lu.
Ah.
Ok. Je ne le vois pas pour vrai.
Ce qu'on va faire, on va noter au fur et à mesure ceux qu'on connaît et pas, on verra qui gagne. Michel, t'es hors jeu, puisque toi, à part Picsou.
À part Daniel Steele.
Ils sont pas bien gentils avec moi.
Tu regrettes pas d'être venu.
Faut vous bus.
Non, mais plus on aime dans cette émission et plus on se moque.
En voilà, général. Exactement.
Donc, Jean-Michel, nous t'écoutons. Quel est ton premier choix ?
Mon premier choix, eh ben, c'est un gros pavé pour l'été, mais c'est un grand roman sur les années SIDA. Et c'est déjà intéressant que ça vienne de Suède.
Oui.
Parce qu'à part les romans policiers souvent très réussis, on ne connaît pas trop ce genre de littérature contemporaine. Et là, c'est vraiment un beau roman d'amour qui se déroule sur une dizaine d'années et qui met en scène un groupe d'amis. Qui viennent de milieux différents, mais qui rompent avec leur famille, qui rompent avec leur enfance, leur adolescence, les difficultés qu'ils ont rencontrées avec la religion. C'est quand même un pays très marqué par la religion protestante.
Ouais. Austère, donc.
Oui, 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 très austère, avec des confessions publiques.
Ah oui. Mais alors, attends, je peux prendre le bouquin ?
Oui.
Des confessions publiques ?
Oui.
C'est vrai qu'il est... C'est un gros pavé. N'essuie jamais de larmes sans gants.
Voilà.
De Jonas Gardel.
Oui.
Alors, ce livre se passe en 1982. Et tu es en train de nous dire qu'en 1982, il y a des confessions publiques en Suède, ça existe ?
Dans les communautés, dans les petits villages.
Ah oui, oui. Parce que la Suède, c'est vrai qu'on a l'image d'une société assez libérale sur le plan de la sexualité.
Oui.
Et là, tu nous dis
du point de vue légal, vue du cadre légal, social, mais en fait, c'est très communautaire comme ville et les mentalités. Sont pas faciles et socialement il y a un vernis très très libéral mais il y a une histoire quand même derrière.
Mais ça se passe en quelle période
Dans les années, à partir des années 80.
80
ouais. 1982, Rasmus vient d'avoir son bac et quitte la Suède profonde pour la capitale.
Ouais.
Donc venant de la Suède profonde, c'est celle-là dont il parle en fait.
Ouais.
C'est celle où on le traite de sale PD. Ouais. Alors il rencontre un témoin de Jéhovah, donc il faut dire aussi que c'est un peu particulier. Et donc ce livre, tu nous le conseilles pour quelle raison ? Alors il est bien écrit, c'est une belle histoire.
Il y a tout. C'est un gros pavé pour l'été.
Ouais.
C'est souvent déchirant.
Oui.
Il y a tout. L'évocation des mentalités par rapport à la vie des homosexuels en Suède. Je ne connaissais pas bien. Et puis, il y a toutes sortes de personnages. Il y en a un qui est acteur, il y en a un qui fait des spectacles.
Et intervient donc le VIH au milieu de tout
ça.
Ouais. Parce que 82, c'est le début de l'épidémie en Europe, aux États-Unis et en Europe.
Ouais.
Mais les personnages sont tous gays ?
Oui.
D'accord.
Et ça se termine mal ? Non, ne nous dis pas.
Il a dit que c'était déchirant. À ton avis, VIH 82, Gérald, excuse-moi.
Et en fait, c'est la consigne qu'on donne aux infirmières dans les hôpitaux.
Oui.
Ah, d'accord.
Oui, oui.
Ah,
oui, oui, c'est pour ça que je disais, quand j'ai vu le titre, j'ai compris le thème du livre.
Ah oui, N'essuie jamais de larmes sanglantes. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'à l'époque, on prenait des scaphandres pour s'occuper des malades.
Quasiment, oui.
Donc ça, c'est ton premier choix.
Oui. D'ailleurs, il y a eu une adaptation, on trouve le DVD, ça s'appelle Snow.
Snow. Snow comme la neige.
Oui.
Où il y a un accent
d'accord.
Sur le O.
Snow.
À tes souhaits.
Et donc ça veut dire soleil.
Voilà.
Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est un livre qui est épais.
Oui.
Non, c'est typiquement le genre de roman qui m'intéresse.
Ouais, ouais, c'est vraiment. Il y a 585 pages. Oui. Mais bon, même un peu plus. Mais bon, en même temps,
on a dit l'été, c'est jusqu'au 23 septembre.
Oui, oui, tout à fait. Non, puis. Bon, Michel, je te le
mets. Mais t'as pas dit pourquoi. Non, moi, je veux bien.
Non, il n'y a pas d'image dedans. Mmh. Ça va pas t'intéresser.
Oui, mais c'est pas grave. Je regarderai comme ça, dans les yeux. Pour rien.
Bon, alors, donc, ça, c'est le grand pavé de l'été, effectivement. Bon, oui. Oui.
C'est génial comme titre de rubrique, le grand pavé de l'été.
Ouais, c'est ça.
Ça fait un peu la saga.
Présenté par Jean-Michel. Mmh.
Puis ça fait passer à mai 68.
Grand pavé dans ta gueule.
Donc, choix numéro 2.
Alors, un excellent roman à la lisière de l'autofiction de Philippe Besson, Arrête avec ses mensonges. Alors, Philippe Besson, c'est un assez bon écrivain gay qui vit, je crois, à peu près un roman par an tous les deux ans.
Ouais.
Mais celui-là, c'est vraiment ce qu'il a fait de mieux, je trouve. Mmh. C'est ce qu'il y a de plus autobiographique. Je peux peut-être lire la quatrième parce que ça donne vraiment...
Bien sûr.
Quand j'étais enfant, ma mère ne cessait de me répéter « Arrête avec tes mensonges ». J'inventais si bien les histoires, paraît-il, qu'elle ne savait plus démêler le vrai du faux. J'ai fini par en faire un métier, je suis devenu romancier. Aujourd'hui, voilà que j'obéis enfin à ma mère, je dis la vérité, pour la première fois, dans ce livre. Autant prévenir d'emblée, pas de règlement de compte, pas de violence, pas de névrose familiale, mais un amour, quand même. Un amour immense et tenu secret, qui a fini par me rattraper.
Ça, c'est du teaser. Hein.
C'est un très bon livre. Mmh.
Ouais. Tu connais Bernard ?
Oui, je l'ai
lu. Tu l'as vu ?
Oui. Il est très touchant, il est... Il y a un ton presque durassien par moment, mais toujours avec mise à distance un petit peu, mais plus de sincérité que d'habitude, je trouve.
Alors, moi, c'est le terme autofiction, en fait, me dérange. En fait, j'ai du mal, quand j'entends autofiction, du coup, j'arrive pas complètement à savoir ce que ça veut dire. Et du coup, ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire que dans son livre, Philippe Besson, alors c'est adapté de sa vie, mais il y a des romancés, donc il y a des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas passées. C'est ça, en fait, ce que
oui,
ça veut dire ?
Oui, oui, oui.
D'accord. Donc, en fait...
On extrapole un petit peu...
Donc, en fait, le titre, il va avec avec le reste.
Oui, oui, oui.
Donc, en fait, il continue à mentir, en fait.
Oui, en partie.
Ouais.
En partie.
Donc, le livre, c'est Philippe Besson, Arrête avec tes mensonges. Roman chez Julliard. Voilà, un petit peu moins épais que le premier.
Oui, ça se lit plus vite.
Ouais, puis ça se lit très vite.
Et ça peut se relire, à mon avis, parce que pour une fois, il y a du contenu et.
Ouais.
C'est vraiment très réussi. Voilà.
Alors, choix numéro 3. Je suis sûr que tu l'as lu, celui-là.
Non.
Non ? Ah ouais ? Mais moi non plus, figure-toi.
Je dois être la seule Gwyn de Lyon à ne pas avoir lu ce roman.
Ouais. Bah, celui-là, il n'est pas directement LGBT, mais c'est quand même Virginie Despentes. Et elle a des choses à dire et à écrire, et elle les écrit très bien.
Ouais.
Vernon Subutex.
Mais Virginie Despentes, elle est littéralement encensée par la critique littéraire.
Oui.
Et moi, je n'ai jamais lu Virginie Despentes. Tu me conseilles de le faire.
Ah oui, oui, oui. Oui.
Et est-ce que tu as déjà lu Virginie Despentes ?
Non,
du tout.
Mais non, je te dis.
Ah non, mais je croyais.
Donc là, c'est le 1.
Oui, il y en a 3.
Il y en a 3.
C'est une trilogie.
Ah oui, oui.
Oui, il y en a 3.
J'avais déjà conseillé, je crois, un Apocalypse Bébé qui était très réussi, mais elle s'améliore de plus en plus. Et c'est une vraie autodidacte aussi. Elle a beaucoup évolué, elle apprend beaucoup. Et celui-là, c'est une galerie de portraits presque balzaciennes, je trouve.
Ah oui. Alors ça, c'est un compliment. Parce qu'au niveau style, tu veux dire qu'on pourrait comparer à Balzac.
Alors là, et ça, puis elle a un sens du portrait, elle joue sur les points de vue, il y a des personnages qui sont vus de trois points de vue différents, et ça se contredit, c'est très virtuose, c'est passionnant, on lâche pas.
Ça, elle a fasciné.
Ah oui, je suis fascinée.
Tu vas lire ça alors cet été quand même.
Oui, ok, bon. D'accord.
Et puis socialement aussi, elle a des choses à dire sur la société, sur les mentalités, tous ces personnages sont intéressants, elle accroche, hein. C'est pas juste une mode.
D'accord.
C'est vraiment très très bien.
Oui, c'est ça, avec Virginie Despentes, quand elle a explosé avec Baisement, on pouvait penser que c'était justement ce que tu dis, juste le temps de l'explosion du livre, du film, etc. Oui. Mais elle est toujours là, quoi, Virginie Despentes. Oui. Et c'est vrai qu'elle évolue, elle a eu plusieurs vies en fait dans sa vie, et sa vie n'est pas finie, heureusement, j'espère, pour elle. Et
il y a un discours très intelligent et une écriture qui se diversifie et qui s'améliore. D'ailleurs, ça a été vraiment un best-seller, hein, Vernon Subutex.
Ah oui, ça c'est sûr qu'on en a beaucoup entendu parler, un peu partout, et souvent en des termes effectivement assez dithyrambiques, assez élogieux, tant sur le fond que sur la forme d'ailleurs, ce que tu disais, quoi. Donc ça, c'était numéro 3. Numéro 4.
Number 4.
Number 4.
Une bande dessinée.
J'aime.
C'est bien aussi pour moi.
Il y a du texte aussi, calme-toi Jean-Michel, excuse-moi.
J'en ai déjà oublié.
La miche.
Alors, donc c'est une bande dessinée toute rose, la couverture.
Voilà. Alors c'est
Bobby Sens de linge de Hugues Barthes. Alors toi, je sais que t'aimes beaucoup aussi la bande dessinée, puisque l'an dernier quand tu étais venu, tu nous avais proposé une grande sélection de bandes dessinées déjà. Je me demande si tu ne nous en avais pas parlé Hugues Barthes. Oui,
aussi
à la boîte à bulles. Alors Bobby Sens de linge, tiens, tu connais
Non, je connais pas, mais moi j'adore la bande dessinée et j'adore, c'est un one shot comme on dit, il y a pas de suite. C'est juste c'est un tome.
Oui.
Ok.
Oui.
Et ça, j'adore. Je suis pas spécialement fan. Il y a des BD en plusieurs séries ou tomes que j'aime bien, mais moi j'aime bien ce qu'on appelle les one shot. C'est pas juste ce que tu penses, Gérald, les one shot.
Je pense rien.
Et oui, et j'aime bien moi ce qui se rapproche plus du roman graphique que de la bande dessinée. Et c'est vraiment. Mais celui-là, je l'ai pas lu. Mais c'est le genre de chose aussi qui peut m'intéresser. Je te laisse
faire le
Jean-Michel.
Pitch.
C'est un peu autobiographique aussi. Il revient sur son accès au monde du travail, Hugues Barthes, sous un prénom qui est Bobby en province, qui après un bac durement acquis se met à travailler dans une librairie en Franche-Comté, qui en vient fréquenter la famille des libraires et il pense tomber amoureux de la fille de son patron,
mais
ça
ne
se passera pas comme ça.
Et donc Hugo Barthes, c'est un auteur de bande dessinée, je crois qu'il est de ta région en plus, hein, c'est ça. Il est franc-comtois, Jean-Michel.
On a fréquenté le même collège. On s'est croisés.
Donc, il s'agit de La Bobby Change de linge par Hugo Barthes, une bande dessinée.
Lise qui est écrit derrière.
Pourquoi je dis Hugo, moi? Hugues Barthes, c'est ça. La boîte à bulles, c'est la maison d'édition. Alors, derrière, c'est marqué. Il y a une tête un peu à la Dallas derrière. Je déteste ce prénom. Mes parents étaient accros à Dallas. Ils m'ont appelé Bobby, comme Bobby Wing. Et c'est effectivement un dessin qui représente Bobby Wing. Dallas, dans l'univers incroyable.
Il y a un parti pris social aussi, rien que dans le titre, par rapport au prénom du personnage.
D'accord. Donc, à découvrir aussi, tu nous conseilles vivement.
Oui.
Alors, choix numéro, on en est où? 5. Il y a deux choix là.
Oui, des romans pour plus spécialement destinés aux ados, mais qui sont très bien.
Moi, je suis un grand ado.
Qui sont pleins d'humour, intelligents, intéressants,
touchants. Comme moi.
Voilà.
Plus vous regardez les deux. Michel, ça devrait te plaire, ça aussi. Toi aussi, t'es un grand adolescent. Le monde de Charlie.
Moi, j'ai un grand enfant, moi.
Et moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens.
Les deux ont été adaptés en, un film.
Il prononce tout.
Comment tu dis
Sapiens.
Sapiens. Ah oui, Sapiens.
Mais
ouais,
qu'est-ce qui t'arrive?
Bon, j'ai fait du latin, c'est pour ça. Alors, je dis Sapiens parce qu'on nous disait de prononcer Sapiens en latin.
Voilà. Bon. Ça l'a marqué, on va.
Comment il se la raconte, monsieur, il a fait du latin.
C'est vrai, 5 ans. Alors, du coup, alors, moi, Simon, Cézanne, Sapiens, Sapiens, pardon. C'est de Becky. Alors, ça a été, c'est publié au livre de poche. Donc, ça a dû être publié par avant, peut-être dans une autre maison d'édition, puisque là, c'est un livre de poche.
Jeunesse. Livre de poche jeunesse.
Ouais. Livre de poche jeunesse, d'accord. Ouais. De Becky Albertalli. Ça, c'est l'auteur, oui. L'auteur-re, ou c'est
oui,
une
oui.
Dame
Oui, c'est une femme.
Vous voyez comment il va répondre, comment il va dire auteur cette fois.
Oui, parce que autrice, on paraît que ça se dit pas. C'est auteur avec un E.
Voilà. Dis ce que tu veux, oui. Gérald.
À l'oral, on peut pas dire.
On merde les conventions, soit libre.
Et c'est c'est un roman donc américain.
Oui.
D'accord. Adolescent.
Oui, c'est l'histoire d'un lycéen qui est en pleine puberté, donc et qui a une sensibilité gay qu'il reconnaît tout de suite. Ça se passe plutôt bien dans sa famille, et puis il va faire la grande rencontre, mais au début c'est difficile, il y a des échanges d'emails, ça fonctionne un peu comme un roman épistolaire par moment.
Alors moi ça me fait penser, est-ce que c'est sur ce livre qui est basé le film Love, Simon ?
Oui.
Ah. Que j'ai vu il n'y a pas longtemps. D'accord, d'ailleurs.
J'ai pas vu, mais ça avait l'air bien.
Ah, ouais. D'accord.
D'accord. Ah ben voilà. Ça, j'ignorais complètement que Love, Simon était tiré d'un roman. Moi, Simon, 16 ans, homo, sapiens.
Sapiens.
Et l'autre livre, c'est Stephen Chomsky. Alors, tu nous amènes des trucs, par contre, ils ont des noms à prononcer.
Oui, c'est vrai. Désolé.
Les auteurs.
Ça va s'améliorer après.
Stephen Chomsky. Voilà. Le monde de Charlie. D'accord. Alors, de quoi s'agit-elle? Le monde de
Ben, c'est encore une fois l'univers des adolescents. Là, le personnage gay est plus secondaire, mais c'est un peu le même esprit. Ça fait bien état d'une certaine évolution des mentalités à un moment donné. Bon, il y a un personnage qui aide le héros à devenir écrivain, finalement.
C'est américain aussi.
Oui, oui. Mmh.
D'accord. Et ça se passe aussi donc dans le monde de l'adolescence à l'époque contemporaine.
Oui, oui, c'est ça.
Ils ont fait un film aussi après.
Oui, ouais.
Oui. Bah, fais voir la.
Oui.
Oui, c'est avec Emma Watson, c'est Emma
voilà.
Watson.
Voilà. Ah, oui, 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 d'accord. Ouais. Ah, c'est bien.
Lui, je sais plus son petit nom à lui. Je sais plus où je l'ai vu. Lui, celui de gauche.
Je sais plus son nom à lui. Celui derrière, mais je sais plus.
Je me souviens plus. Mais oui, Emma Watson, mais après, ouais, ils ont fait...
Enfin bon, là, le personnage gay est plus secondaire, mais il est amoureux du champion de l'équipe de baseball.
À qui cela n'est-il pas arrivé? Chez nous, c'est plutôt le champion.
Oui, mais pour une fois, l'amour est partagé.
Ah, ça c'est...
Ah voilà. Non, mais spoil pas, Jean-Michel.
Non, mais bon, on va pas dire la fin, évidemment.
Non, non.
Et, ah oui, c'est sous forme épistolaire, en partie,
oui.
Apparemment. D'accord. Très bien. Bon. Allez, donc le monde de Charlie, de Stephen Chomsky, oui, je suis Mazo. Et moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens, sous Simazo, Becky Albertalli. Voilà. Choix numéro 5. Et avant de. Alors, il nous reste encore quelques choix. On va en faire un et après, on lancera Yvan. On le mettra en orbite aussi.
Pas trop loin.
Alors. Sixième choix.
Alors, une courte biographie, mais très bien écrite, très documentée et très intéressante. Sagan à toute allure de Marie-Dominique Lelièvre. C'est pas tout récent, mais c'est vraiment très très bien. C'est agréable à lire. On est au plus près du personnage qui est respecté ici. C'est un livre très très attachant et ça donne envie de lire Sagan et de la connaître un peu plus.
Ah, oui.
C'est vraiment chouette. Hein.
Alors moi celui-ci je l'ai lu, j'en parlais avec Jean-Michel tout à l'heure. Et je lui disais, Marie-Dominique Lelièvre, c'est quelqu'un, elle ne se contente pas juste de recueillir des infos et de faire des biographies classiques. Elle va vraiment, elle rencontre vraiment les proches des personnes dont elle veut écrire sur eux. Elle vit avec eux. Limite, elle fouille dans leurs affaires, avec la permission des proches, bien sûr. Mais c'est vraiment, c'est plus de l'investigation, selon moi, que juste un écrivain qui se renseigne sur, sur Sagan ou autre. Elle a écrit un livre aussi sur Saint-Laurent qui s'appelle Mauvais Garçon,
ouais.
qui est très bien aussi, qui fait un peu plus gossip, ragot. Il y a des moments un peu moins élégants, on va dire, mais en même temps, c'était la vie de Saint-Laurent, donc elle a tout écrit. Hein. Et celui-ci, vraiment, sur Sagan, et c'est, je suis entièrement d'accord avec Jean-Michel, la personne qui n'a jamais lu Sagan, elle lit ce livre et elle veut lire tout Sagan.
D'accord.
C'est ça aussi l'effet. Ouais, ouais. On apprend, c'est pas juste, on apprend à connaître Sagan, sa vie, ses proches. C'est vraiment qu'après, on a envie de découvrir l'écrivain, pas seulement la personne.
Oui.
Ouais, ouais. C'est vraiment très bien. C'est très bien fait.
Donc ça s'appelle Sagan à toute allure, de Marie-Dominique Lelièvre. Donc il nous restera encore quelques livres à présenter, mais on va écouter à présent notre ami Yvan et Stéphane.
Bonsoir Yvan. Qu'on salue.
Qu'on salue. Je sais pas s'il nous écoute.
Et bien sûr, les fans de nous.
Camille Vidal-Naquet, bonjour.
Bonjour.
Félix Mariteau, bonjour.
Bonjour.
Camille Vidal-Naquet, vous êtes le réalisateur du film Sauvage, votre premier long métrage. Et Félix Mariteau, vous en êtes l'interprète principale.
Voilà.
Alors Camille Vidal-Naquet, pourquoi avoir choisi ce sujet des garçons prostitués, des prost boys, et finalement d'avoir traité ça sous le mode très réaliste? Est-ce qu'il y a une dimension politique derrière, puisque vous montrez tout de même que ben, la précarisation des gens qui pratiquent ce métier, et aussi la clochardisation, on peut le dire, des gens qui se prostituent?
Alors en fait, moi je ne suis pas parti d'un sujet, je ne me suis pas dit « tiens, je vais parler de la prostitution masculine ». J'ai d'abord inventé un personnage, d'abord créé un personnage. C'est un personnage sur lequel j'avais déjà travaillé dans d'autres films, qui est ce personnage d'un jeune homme d'une vingtaine d'années qui est un peu seul au monde, qui est en recherche d'amour dans un monde voilà, très dur. Et donc j'ai continué à développer ce personnage et j'ai eu l'idée de l'énergie de ce personnage qui s'est lancé dans les rues comme ça à la recherche d'amour. Et j'avais l'idée d'un scénario très, très itératif qui était comme ça, avec des rencontres qui revenaient régulièrement. Voilà, je suis parti de là. Et à partir de là, bah, je me suis laissé aller comme ça. J'ai écrit d'abord le scénario. Et c'est seulement, en fait, quand j'ai écrit, une fois que j'avais terminé la première version à peu près aboutie, que j'ai décidé voilà, d'aller voir sur le terrain, d'aller voir dans la réalité pour savoir si ce que j'avais écrit était conforme. Et puis, donc, j'ai rejoint une association humanitaire dans Paris, qui avait plusieurs antennes dans Paris, notamment une antenne au Bois de Boulogne. Et puis voilà, j'ai passé plusieurs années là-bas. En fait, ça a été des rencontres assez, assez décisives pour moi, très, très importantes, très fortes. Et puis voilà, ces rencontres-là, du coup, ont renseigné l'écriture, ont nourri l'écriture pendant toutes ces années, etc. L'écriture me posait des questions, je retourne au Bois de Boulogne poser des questions à tous les garçons que je connaissais. Voilà, c'est en fait comme ça que c'est parti. Mais c'est vrai que c'était pas parti d'abord d'une volonté d'un sujet véritablement. Et ensuite, est-ce que le film est politique? Alors, je pense que c'est pas un film politique au sens classiquement militant du terme, mais je dirais que plus qu'il y a un geste politique dans le film, parce que le film, je crois, donne à voir, donne à montrer des gens qui sont invisibles, des gens qui sont assez peu représentés. Le film m'a permis de passer du temps avec des gens qui vivent dans un univers qu'on a l'impression que cet univers-là est très très loin de nous, alors que c'est devant nous, c'est sous nos yeux, c'est à Paris, hein, c'est pas très très loin, c'est vraiment aux portes de Paris. Et voilà. Et je pense que la dimension politique du film, c'est ça. Après, je crois que le film évite de porter un jugement moral sur les situations. C'est-à-dire que le film ne condamne pas, il ne glorifie pas, en fait, les travailleurs qu'il voit. Mais je crois que le film nous invite à vivre avec ces personnages-là et à partager peut-être l'agitation, la sidération, le sens de sidération qui est lié à l'exclusion. Voilà. Et en ce sens-là, bah, peut-être qu'on peut considérer qu'il y a un geste politique dans le film.
Félix Mariteau, bonjour. Vous êtes absolument impressionnant dans ce film. On a l'impression que vous jouez de manière instinctive. Alors, est-ce que c'est le cas? Ou bien est-ce que vous avez eu un vrai travail de préparation?
Je pense toujours jouer de manière instinctive. Mais on a préparé un peu un instinct, quoi, une partie de l'instinct par plusieurs subterfuges. Alors ça a été très peu de travail sur le texte en soi, ça a été beaucoup de travail sur le corps, notamment dans des ateliers de danse où moi j'ai travaillé sur la réactivité du corps, la pesanteur, la grâce. Et puis après il y a eu aussi toute une recherche, voilà, de résonance lumineuse et de voilà quoi, cette candeur qu'a le personnage, il fallait la trouver un peu quelque part. J'ai tendance à pas mal intellectualiser les choses dans ma vie en général, du coup, il fallait voilà, sortir de la tête et rentrer dans le corps, vraiment dans une réactivité directe du corps, quoi. C'était une préparation, mais après, enfin, les choses sont faites assez instinctivement, quoi. Enfin, je pense que j'ai tout de suite compris le personnage à la première lecture du scénario. Enfin, j'avais saisi un peu le gars, quoi.
Et comment vous le définiriez, ce personnage de Léo ?
Je pense que c'est l'archétype de la liberté, quoi. Et peut-être aussi de l'amour. Enfin, il est très très libre et très 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 amoureux. Mais amoureux, pas. Enfin, il n'a pas placé son amour sur une chose, quoi. Il déborde d'amour, quoi. Il ne vit que d'amour, quoi. Et de liberté, forcément, parce que ça rend libre, en fait. Pour le moment, les films que j'ai faits, les expériences que j'ai eues, je les ai toujours faits avec de l'amour. Et avec l'amour des projets, l'amour des gens avec qui je les ai faits. Et aussi le plaisir de le faire, quoi. Et du coup, bah, je crois que c'est ça qui est bien. J'espère que je vais continuer à travailler comme ça. Et puis, c'est pas grave, en fait. On a l'impression souvent que c'est pas professionnel et tout. Mais en fait, non, je trouve que ce qui serait grave, c'est de se couper totalement de son amour dans ce qu'on fait, quoi. Enfin, moi, je mets pas de distance entre... moi, quand je prends mon café le matin tout seul et moi, quand je suis sur un plateau de cinéma, je suis la même personne et j'adapte mes comportements à ce que je dois faire sur le coup. Mais l'intégrité, c'est ça, quoi. C'est vraiment de dire à un moment donné, voilà, quoi. Je sais qui je suis, j'ai passé beaucoup d'années à me poser des questions sur qui je suis. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Comment je donne? Comment ma générosité elle peut donner aux autres? Et en fait, sur Sauvage, j'ai donné beaucoup. Sur le coup, j'ai eu un peu un truc de saut dans le vide pendant un an, le temps du montage et que le film soit public, entre guillemets. Et ce que j'ai reçu à Cannes, je me suis rendu compte que ça valait le coup quand même, parce que j'ai reçu tellement d'amour que j'en ai un peu trop.
Et des prix. Et un prix.
Et un prix, ouais. Ça, c'est un peu... C'est accessoire plus, quoi. Enfin, disons que le prix, c'est un truc qui est bien plus impersonnel que ce qu'on peut penser. Les choses personnelles qui arrivent quand on présente un film, c'est par exemple une actrice américaine qui est venue me voir à la fin de la projection en pleurs, qui m'a pris dans ses bras. Enfin, moi je l'ai prise dans mes bras et l'émotion qui a été présente à ce moment-là, je pense que c'est le truc le plus pur que j'ai vécu de ma vie, quoi. Et du coup, avoir un prix, c'est super, ça fait plaisir à plein de gens, ça me fait plaisir à moi aussi, et puis c'est hyper agréable d'avoir une reconnaissance professionnelle comme ça. Mais en fait, je sais pas ce que font mes camarades acteurs, mais moi, je fais pas des films pour des prix, moi je fais des films pour les films, quoi. Et je le fais même pas pour moi, donc moi je reçois un prix, c'est cool, je suis content, mais en fait, je peux pas dire je m'en fous, mais je m'en fous, quoi. Enfin, je veux dire, et si je m'en fous, quoi. Je fais le film, il aurait pu ne jamais sortir, ne jamais être visible ou quoi, ben je l'aurais fait quand même, parce qu'en fait, c'est pour le film que je l'ai fait. Donc en fait, l'important, c'est le film, c'est pas tout ce qui gravite autour. Évidemment, c'est super agréable que les gens soient touchés par le film, ou que la profession soit ait une reconnaissance pour le film, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est ce personnage qu'il fallait faire vivre, et j'avais envie d'inviter en moi, quoi. Enfin, j'avais envie de vivre ce personnage.
L'idée, en fait, donc, de la production, d'abord, donc, effectivement, j'avais déjà cette idée, donc, de ce personnage que j'avais développé pendant un certain temps. Et puis, c'est vrai aussi que je m'intéresse aux travailleurs invisibles, c'est-à-dire que il y a des travailleurs dont on sait qu'ils existent, mais on n'est pas capable de définir exactement ce qu'est leur vie, à quoi ressemble une de leur journée. Et par exemple, la prostitution masculine, qui je trouve est pas très représentée, enfin bon, la prostitution de manière générale, mais la prostitution masculine est assez peu représentée. Et puis, du coup, ben, je me demandais quel était, en fait, à quoi pouvait ressembler le quotidien d'un travailleur comme ça, d'un garçon qui fait partie d'aucun réseau, qui est seul comme ça, qui se prostitue. Et je voulais voir ce qu'était le quotidien. C'est-à-dire qu'on dit toujours, effectivement, on utilise l'expression faire une passe quand on dit voilà, que les garçons, en fait, ont une relation sexuelle. C'est-à-dire qu'on évite de nommer quelque chose qui est assez cru et qui, en fait, est très cru. Hein. C'est-à-dire que, quand même, quand on dit faire une passe, c'est qu'un garçon rencontre quelqu'un, qu'il a un rapport physique, sexuel, immédiat, très cru et direct, donc on a essayé effectivement de montrer dans le film. Mais c'est vrai qu'on évite de le nommer, et non seulement donc ce rapport est assez cru, mais en plus il a lieu plusieurs fois par jour ou par nuit en l'occurrence, et donc c'est pour ça que ça m'est venu l'idée d'un film itératif, d'un film où on voit tout le temps, puisque c'est moins un film sur des travailleurs, donc on les voit en fait en train de faire cette activité là et ensuite bah, il y avait effectivement cette problématique de la prostitution de rue, qui est une forme de prostitution du coup assez particulière, parce que c'est pas la prostitution sur internet, c'est une prostitution qui fait que voilà, c'est des gens qui n'ont pas accès à internet, donc des gens qui n'ont pas accès à internet aujourd'hui, c'est vraiment des gens qui sont dans une situation généralement critique. Ça veut dire que donc bah voilà, c'est un peu la prostitution de dernier recours, c'est une prostitution de survie qui pose des problèmes avec le corps qui sont assez intéressants, puisque c'est des gens bah, qui des garçons qui n'ont pas accès à l'hygiène, qui n'ont pas accès à tout ce qui fait qu'on entretient le corps, à ce que le corps qui fait que le corps est beau, qu'on peut se nourrir convenablement, qu'on peut soigner le corps quand il est blessé, et ce corps doit pourtant rester un objet de désir, et donc déjà il y a cette problématique où je me dis bah, qui est très 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 intéressante pour moi, parce que je veux dire, c'est quelque chose dont on parle pas mais qui pose une quantité de questions. Je trouve le problème assez riche, et puis c'est vrai que dans le film moi j'ai vraiment essayé de reprendre en fait ces éléments pour poser des questions, pour faire connaître en fait ces activités là et pour que les questions en fait soient amenées, pour que on voilà, et j'amène pas de réponse avec le film parce que c'est pour moi quelque chose qui me dépasse un peu, qui est très compliqué, mais en tout cas je crois que le film questionne, apporte une question sur une réalité qui est assez peu vue, dont on parle assez peu, enfin moi que je connaissais très mal en tout cas.
Vous avez eu des retours de la part des associations type Cabria, tout ça, qui vont sur le terrain des travailleurs du sexe, et des retours de la part des...
Non, mais le film, déjà, on l'a terminé, là il est montré visible depuis peu de temps. Et puis, pour l'instant, on n'a pas encore assez. Je pense que ça va venir, mais là pour l'instant, ça n'a pas encore été fait. Et puis, je ne sais pas en fait exactement comment ça va se passer de ce côté-là. Mais même l'association avec laquelle j'ai travaillé, etc., je pense que voilà, j'aimerais bien qu'on se retrouve aussi autour du film. Mais vous savez, c'est un film qui montre des choses, enfin, qui montre des images de manière directe. Et moi, les garçons que j'ai rencontrés, nous on était sur un tout autre rapport en fait, c'est-à-dire qu'on n'était pas justement, on était sur un rapport où on parlait de tout autre chose, c'est-à-dire qu'on passait vraiment des moments d'amitié, et c'était pas justement ça, c'est vraiment mon imagination, moi qui est venu après, et j'ai réussi vraiment à séparer le fait que quand j'allais vraiment à la rencontre des garçons, on liait des liens comme ça qui n'étaient pas pour moi un lien véritablement professionnel en fait, hein. C'était pas un lien de travail, même si moi ça alimentait pour le film. Je pense que si ça avait été uniquement un lien de travail, j'y serais allé une semaine, j'aurais eu mes infos et j'aurais fait le film. Alors que là, comme je suis resté à peu près 3 ans, c'est que pour moi, j'ai passé des moments, ça a été des véritables rencontres. Et j'ai dissocié, en fait, après le film, et je pense que c'est une autre étape. Et donc, je crois aussi que les associations, j'ai envie de savoir aussi ce qu'elles en pensent et quelle peut être la vertu de ce film, justement, auprès de travailleurs. Voilà. Mais c'est des questions qui sont encore posées et que j'attends pour l'instant.
Il y a une scène qui dit... Pourquoi t'embrasses et tout, c'est assez intéressant, parce que justement c'est on joue sur les codes aussi de la prostitution, et sur l'abandon justement, et voilà, enfin, c'est sur la question de l'amour, je trouve ça intéressant. Parce que je sais pas si on peut en passer, s'il y a quelque chose à
dire. Le personnage, il est marginal dans la prostitution, lui aussi, quoi, tu vois, c'était une façon de créer un truc totalement désarmant comme ça. Un personnage qui a rien à voir avec même son propre milieu, quoi. Donc où t'as le portrait d'un jeune prostitué qui est même pas accepté dans le code de son propre milieu, quoi. C'était vraiment un marginal, voilà, un outcast total. C'était intéressant, je pense. Ça fait un personnage de cinéma, en fait, quoi.
Sort que la nuit, c'est à croire que le jour lui fait peur. Il a quelque chose de pas clair sur le cœur qu'il tracasse et toujours le poursuit. Le soir, il se glisse sans bruit dans les rues où l'ombre est complice. Il craint la lumière autant que la police. Ses copains disent qu'il est fini. Mais moi, je l'aime. Allez savoir pourquoi. Peut-être parce qu'il n'a plus que moi. Quand même, malgré tout ce qu'on dit, je l'ai dans la peau pour la vie. J'aimerais m'en aller avec lui, m'en aller danser le dimanche. Quand il y a du soleil sur les guinguettes en planche, mais mon homme ne sort que la nuit. Sort que la nuit, c'est à croire que le jour lui fait peur. Il a quelque chose de pas clair sur le cœur qu'il tracasse et toujours le poursuit. Le soir, il se glisse sans bruit dans les rues où l'ombre est complice. Il craint la lumière autant que la police. Ses copains disent qu'il est fini. Mais moi je l'aime, allez savoir pourquoi. Peut-être parce qu'il n'a plus que moi. Quand même, malgré tout ce qu'on dit, je l'ai dans la peau pour la vie. J'aimerais m'en aller avec lui, m'en aller danser le dimanche. Quand il y a du soleil sur les guinguettes en planche, mais mon homme ne sort que la nuit.
Pluriel Gay, la seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.
Au PHP.
Eh bien, nous sommes de retour. Laurence est en pleine conversation avec Michel. Nous sommes de retour. Alors, du coup, sur l'émission Pluriel Gay, avec Jean-Michel Lacour, notre invité, qui nous parle de littérature ce soir. Mais, du coup, comme vous étiez en discussion, on n'avait pas écouté la chanson qui a terminé l'entretien, la rencontre de Yvan avec Camille Vidal-Naquet, qui était une chanson de Simone Réal.
Oui.
Qui est très célèbre pour avoir été fréquemment invité par Pascal Sevran dans les années 80 à la chance aux chansons.
C'est l'ancienne maîtresse de Bernard.
Moi, je connais Yvette Horner, mais pas Simone. Oui.
Yvette Leclerc aussi.
Ah oui, Yvette Leclerc. C'est vrai qu'Yvette Leclerc, c'est une sorte de condensé de toutes les chanteuses, musettes. Voilà.
Ça t'irait bien, Yvette Leclerc. Quoi. Je te verrais bien avec. Ah, le spectacle, le clou, ça
ah,
va être génial.
Je sais pas, mais on verra bien.
Yvette Leclerc qui a déjà été interviewée chez nous. Hein.
Ah, ouais,
ah oui, bien sûr.
Vous avez des bonnes relations.
Mais très bien. Elle est toujours au point virgule à Paris, tous les dimanches soirs. Voilà. Elle tient le haut du pavé du Marais. Elle a même son effigie dans le Marais maintenant, en face du point virgule. C'est Gilles qui l'avait interviewée à l'époque.
Ah ouais.
Oui, Yvette Leclerc. Et donc Simone Réal, effectivement, qui est une des inspiratrices probablement d'Yvette Leclerc, entre autres. Et donc une chanteuse musette très célèbre des années 50 et 60. Mmh. Et là, nous parle de son homme qui se glisse la nuit furtivement. Mmh. Voilà, qui ne vit que la nuit, c'est pas trop pourquoi. Voilà, je trouvais que le sujet était intéressant.
Oui, très bien.
Et donc, on a entendu Yvan et Stéphane qui ont interviewé Camille Vidal-Naquet et le comédien Félix Mariteau. C'est ça, hein, je crois. Pour le film Sauvage, lequel film donc, c'était pour l'avant-première du film à Lyon. C'est en juin dernier, le 27 juin. Et le film sort sur les grands écrans. Les grands écrans.
Grands écrans.
Qu'est-ce qu'elle nous fait, Laurence? Elle me perturbe. Ne
t'occupe pas de moi.
Donc, le 29 août, sortie du film Sauvage de Camille Vidal-Naquet, 29 août. Film tout de même qui a été remarqué à Cannes, puisqu'il était sélectionné à la Semaine de la Critique cette année. Voilà. Je ne sais pas si tu l'as vu, Sauvage.
Non.
Je dis ça parce que c'est un événement qui a été réalisé avec Écran Mixte.
Oui.
Et il se trouve que tu fais aussi partie de l'Écran Mixte. Voilà.
Tu fais partie d'Écran Mixte?
Oui.
Super.
Oui, oui. Et du coup, Jean-Michel, on va revenir maintenant...
Mais c'est-à-dire... Excuse-moi, je te coupe. Ça m'intéresse. Mais du coup, tu fais quoi exactement? C'est-à-dire faire partie d'Écran Mixte et de...
Je fais partie de l'accueil, de la présentation des films au public.
Top.
Par exemple, au dernier Écran Mixte, il a présenté le documentaire sur Arsène Maupin, qui a été présenté à la bibliothèque du 7e.
Voilà.
D'accord,
voilà.
Okay, très bien.
Nous y étions, Bernard, hein, tu te souviens.
Tu te souviens de Tolier.
Donc, pour revenir à nos moutons, plutôt à nos livres, donc, il nous reste donc 4 sélections. sélectionnée par notre chroniqueur littéraire Jean-Michel Lacour. Première sélection.
Alors, c'est Baptiste de Vincent Borel. C'est un roman historique sur Lully,
oui.
Le fameux compositeur de l'époque de Louis XIV et homosexuel avéré.
Mmh.
Et ici, il nous raconte à la première personne toute sa vie. C'est comment il s'est fait sa place à la cour du roi, comment il l'a fait danser, comment il est plus ou moins tombé amoureux platoniquement, et puis tout le milieu homosexuel de l'époque à la cour, parce qu'il se passait plein de choses.
Oui, il y a déjà les frères de Louis XIV qui étaient pédés comme
un phoque,
déjà, entre autres, parce qu'ils étaient nombreux à la cour de Louis XIV.
Oui.
Et après aussi, d'ailleurs.
Déjà.
Et avant et après.
Voilà.
Mais eux, ils étaient protégés parce qu'ils avaient un statut.
Oui.
Voilà. Ils faisaient partie d'une caste supérieure. Bah, eux, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils n'allaient pas finir sur un bûcher.
Oui, tu d'accord. Ouais.
Condamnés par un tribunal.
Donc, ils pouvaient vivre leur homosexualité comme ils voulaient.
Oui. Enfin, Louis XIV, il n'aimait pas trop, mais bon, il laissait faire quand même. Même Lully, il n'appréciait pas ses mœurs italiennes.
Pas trop, hein,
oui, il a dû se marier, Lully.
Oui, oui, voilà. Louis XIV a dit écoute, fais pas trop d'éclat quand même. Il n'aimait pas trop quand même les. Mais bon, son frère, le propre frère de Louis XIV.
Oui.
Ça me fait penser au film Le Roi danse.
Oui.
Hein
oui, oui.
Et dans Le Roi danse, d'ailleurs, l'homosexualité de Lully est évoquée
franchement,
ouvertement, on va dire.
Oui, oui, oui.
Qui jusque-là était complètement occulté, y compris des livres d'histoire. En
oui, oui, oui.
Voilà. On appelait ça les mœurs italiennes à l'époque. C'est vrai. On disait que.
C'est que lui qui avait apporté ça.
Ouais. Oui, voilà, c'est ça, c'est parce qu'il était italien à l'origine. Ouais. Et on disait que c'était les mœurs italiennes, donc c'était la sodomie était un vice. Italien, porté de.
Et maintenant, c'est les Grecs.
Oui, il y a eu les Grecs, d'où l'expression aller se faire voir chez les Grecs. Oui. À l'époque, on disait plus va te faire voir chez les Italiens. Voilà.
Ils sont forts, ces Italiens.
Ah ouais. Ils ont tout inventé, même
la
sodomie.
Mais oui, bien sûr.
Donc, du coup, alors ça rappelle-nous le titre, donc.
Baptiste.
Baptiste. Et c'est donc c'est un roman historique.
Oui.
Basé sur la vie de Lully.
Oui.
Donc, qui dit roman, il y a un peu de romance dedans.
Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, mais le personnage est très intéressant, très attachant. On découvre plein de choses. Et puis, c'est très agréable à lire.
Oui. D'accord. Et c'est écrit à la première personne.
Voilà.
D'accord.
Oui.
Donc, là,
c'est l'histoire d'une ambition. C'est un tableau de toute une époque.
Ouais. Si c'est bien documenté,
musique,
bien
écrit, voilà.
Moi j'aime bien la musique de Lully, en plus ça fait faire. C'est vrai, ça fait très. C'est du baroque, mais c'est bien mastoc, tu vois. Ça fait bien Louis XIV.
Oui, oui, c'est solennel.
Voilà, c'est solennel.
C'est vrai que Louis XIV faisait comme ça, comme tu fais.
Je levais le matin.
Oui, en de toute façon, le lever de Louis XIV, c'était quelque chose.
Il faut faire attention avec la baguette, hein, parce que si on se la plante dans le pied.
Oui, ou ailleurs. On pouvait se la mettre ailleurs aussi. Il paraît que le frère du roi ne s'en privait pas. Tu sais ce qu'il disait, le frère du roi? Le supplice du pal, le seul qui commence bien et qui finit mal.
Voilà.
Voilà. Donc, du coup, en fait, alors c'est vrai que Lully a fait danser le roi en plus.
Oui, 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 mais c'est lui qui tenait effectivement.
Voilà, parce qu'à l'époque, on battait la mesure
la canne.
Avec un bâton.
Oui.
Hein
oui,
qu'on retrouve dans les armées maintenant, tu sais, les. Avec le bâton, non, mais c'est vrai.
Oui,
c'est vrai. Et d'ailleurs, dans le film. Non, mais dans le film dont nous parlions, on voit très bien d'ailleurs Lully, qui est puis aussi dans d'autres films de l'époque, c'est bien constitué, c'est ce bâton.
Dans Nuit d'ivresse aussi, Josiane Balasco.
C'est ce que j'ai. Elle manie très bien le bâton.
Le tour d'un bâton. D'ailleurs, ce pauvre Lully en est mort, de ce touring bâton.
Ah bon, mais comment il est mort, au fait?
Eh ben, il s'est tapé dans le pied, ça s'est infecté, et il
est
mort. Ah, mais ça, j'ignorais.
Ah, putain,
c'est dingue, ça.
Le taulier a une fois de plus raison.
Oui.
Ben ouais, mais c'est fou, ça. Il fait un geste bizarre.
Ouais.
Tu ne vois pas, parce que...
J'ai pas osé relever. Je dis à cette connerie comme ça.
Donc, on va dire que ce livre, c'est de Vincent Borel,
oui.
Ça s'appelle Baptiste.
Voilà.
Hein, qui était le prénom, donc, de Lully.
Voilà.
Alors, ensuite, il nous reste trois autres.
Alors là, c'est un livre très provocateur, très dérangeant, qui n'est pas tout récent, mais que je trouve très, très original et à découvrir. C'est Crash de J.G. Ballard. Il y a eu un film il y a une vingtaine d'années de David Cronenberg.
Ah oui, oui. Je ne connais pas le film. Mais
ce sont des personnages qui se rencontrent par hasard, mais avec des idées derrière la tête, et qui cherchent de nouvelles formes de jouissance dans la sexualité, mais À leur sexualité se mêlent des accidents de voiture, des reconstitutions de morts.
Mais c'est gore.
Ah oui, alors, c'est très gore.
Je vais te prendre le livre parce que la couverture, déjà, ça a un côté un peu couverture de roman policier.
C'est une image du film.
Oui. Ouais, c'est l'image du film.
Oui.
Ah, ouais. Le film, moi, je ne l'ai pas vu, mais c'est vrai qu'il est connu, mais moi, je n'ai jamais eu l'occasion de le voir.
C'est très, très dérangeant.
D'ailleurs, ils disent roman apocalyptique.
Oui.
D'accord. Toi, ça devrait être
clair.
Ouais, là, il pourrait le lire, ça, Michel.
T'aimes bien, écrit gros, t'attends en plus. L'apocalypse.
Ah, mais ça fait longtemps que j'attends, mais...
Donc ça, c'est Crash de G.J. Ballard. Et donc, le film de David Cronenberg est tiré de...
Oui.
D'accord. C'est donc un livre qui a déjà... qui date déjà un petit peu. Voilà. Oui. Alors, ça, c'est pour Michel. Non, bah, du coup, on n'a pas expliqué dans Michel, tous les bouquins que tu nous as donnés, on se les garde. On les distribue. Alors, ensuite, nous avons... Alors, je vois quelqu'un que je connais.
Oui.
Voilà.
C'est l'autobiographie de Rupert Everett. Alors, apparemment, il y a la suite qui est déjà parue en anglais, mais il n'y a pas eu de traduction.
D'accord.
Mais celui-là, vraiment, si vous avez envie de rire...
Oui. C'est son histoire à lui.
Ça s'appelle « Tapis rouge et autres peaux de banane » de Rupert Everett. Et il y a une façon bien anglaise et bien humoristique de raconter toute sa vie et ses expériences en tout genre, au cinéma accessoirement, avec de l'arsenic dans sa tasse à thé, on va dire.
Ouais, c'est de l'humour noir anglais, alors, un petit peu.
Pas exactement de l'humour noir, mais du sarcasme, de la méchanceté, des vacheries.
Ah oui, c'est très pédé en fait.
Hein. Oui, complètement, complètement.
Donc, Rupert Everett.
Yeah. Oh, qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs?
Mais oui.
Que devient-il? Il a réalisé un film sur Oscar Wilde.
Ah d'accord. Ah. Oui. Très bien. Et Rupert Everett, qui est un acteur qui a été rendu célèbre par son interprétation dans... c'est Maurice? Non, c'est pas dans Maurice, c'est l'autre.
C'est Another Country.
Another Country. Je confonds toujours les deux, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça se passe en Angleterre aussi, les deux, dans les milieux
universitaires. Et l'internat à l'anglais.
Voilà. Et lui, c'est Another Country, effectivement. Oui. Qui était basé sur une histoire vraie, d'ailleurs, d'espions britanniques, etc. Pour le compte de la Russie. Bref. Donc, et là, ça s'appelle Tapis rouge et autres peaux de banane de Rupert Everett. Il avait tourné aussi, et non pas Rupert Everett, comme certains disent, il avait tourné dans un film avec Madonna. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film, c'était un navet quand même. Un navet avec Madonna.
Non, moi, j'ai vu le film avec Julia Roberts où il chante Aretha Franklin. Là, c'est quoi déjà?
Je ne connais pas.
Le mariage de mon meilleur ami.
Ah oui, voilà. Voilà. Il fait le meilleur ami de Julia Roberts. Ouais. Enfin, bref, voilà.
C'était très drôle.
Ouais. Et donc là, il écrit.
Oui.
Et non content de balancer tous ses sarcasmes et ses petites méchancetés dans un premier livre, il en a écrit un deuxième, ce qu'il n'avait pas assez dit dans le premier.
Il a fait des romans aussi où il raconte son passé de gigolo un petit peu.
Ah oui, d'accord.
Les coiffeurs de Saint-Tropez.
Ah oui.
Rien que le titre.
Oui, oui, c'est vrai. Ouais.
Il balance des noms un peu, non?
Oh oui, il parle de Madonna, il parle de la nullissime adaptation télé des Liaisons dangereuses qu'il a fait pour José Dayan avec Deneuve.
Ah bah, je vois la photo de Deneuve.
Et les costumes étaient de Jean-Paul Gaultier. Il a dit que Deneuve, elle avait l'air de la femme de ménage roumaine d'un dentiste dijonnais.
C'est excellent. Dijonnais.
Ah, il est vraiment pédé, le mec. Incroyable.
Ah bah, effectivement,
c'est une méchante.
Ça donne envie.
Je crois bien qu'elle est méchante.
Mais elle est.
Bon, très bien. Alors donc, ça s'appelle Tapis rouge et autres peaux de banane de Rupert Everett. Voilà. Autobiographie. Et la dernière sélection, mais pas des moindres.
Voilà. Mmh. Alors, c'est un des livres que j'ai préféré de Didier Lestrade, activiste, journaliste, écrivain, fondateur d'ACT-UP.
Oui. Bien connu. Un militant très connu.
Oui.
Parfois controversé.
Oui.
Mais tout le monde aime la controverse.
Absolument.
Donc il a fallu faire de la controverse aussi.
Et j'ai apporté ce livre. C'est pas celui qui a le plus d'actualité parce qu'il a, il avait ressorti l'année dernière son livre sur ACT UP qui avait inspiré 120 battements par minute.
Oui.
Qui est très documenté, qui est très bien, qui est très fouillé. Il faut le dire. Celui-là est plus personnel. Et moi, je l'ai trouvé plus, plus attachant, plus touchant.
Oui.
Ça raconte comment, en fait, il a quitté Paris, le milieu parisien, l'activisme, après des années à s'y investir dans des conditions pas toujours faciles. Et en fait, il s'est installé à la campagne. Il a redécouvert le jardinage et cultivé une forme d'individualiste inspiré de Thoreau, un auteur américain qui s'est rapproché de la nature. Et il y a beaucoup de choses qui témoignent d'un bilan de tout ce qui s'est passé pendant ces époques agitées et difficiles des années SIDA. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de
c'est chèque,
d'éléments passionnants.
Chèque, oui. Journal de campagne,
oui.
Chèque comme un chèque,
oui.
Du désert.
Voilà. Hein.
D'accord. C'est un roman de 2007, je vois.
Oui.
Hein, ouais. Laurence, tu voulais jeter un coup d'œil dessus. Voilà. Donc ça, c'est le dernier livre de ta sélection de l'été. Donc c'est vrai, heureusement que l'été est long, effectivement, comme on me disait, ça fait beaucoup de livres, mais on peut continuer à lire tous ces livres au-delà de l'été, évidemment, c'est pas une obligation.
Toute l'année.
Voilà, toute l'année.
C'est l'été toute l'année.
C'est l'été toute l'année, grâce aux lectures de Jean-Michel Lacour.
Oui.
Donc, il va falloir conclure cette émission.
Oui.
Eh oui. Tu t'ennuies, Michel?
Non, je regardais.
Si, ils s'ennuient. Bon.
Alors du coup, ben, on se retrouvera à la rentrée, de toute façon. Alors, il va se passer des choses à la rentrée, pas seulement pour l'émission d'ailleurs, mais en règle générale, il va y avoir le débat de la PMA qui va normalement arriver.
Oui, mais la rentrée, alors, janvier, l'autre rentrée. Hein.
Septembre. Alors, la nôtre, c'est le mois de septembre.
Nous, l'émission. Là, oui. Voilà. Mais la loi sur la bioéthique, où dedans il y a la PMA, c'est janvier 2019.
Ah, d'accord.
Voilà. Ça devait être septembre, après ça devait être novembre, et maintenant c'est janvier 2019.
C'est reporté.
C'est sûr.
Mais c'est sûr, ils vont en discuter au moins.
Oui, et le porte-parole du gouvernement a dit « Arrêtez de vous inquiéter pour cette histoire de PMA. Il n'y a aucun commencement de ramollissement de la part du gouvernement. »
Très bien, on est donc rassurés.
Oula.
Interprétez comme vous voulez, les gars.
Si ça ne se ramollit pas.
Voilà. Mais il va y avoir dans le projet de loi de la PMA aussi, cette proposition de loi, il y aura le sujet qui va revenir, qui commence déjà à faire parler, c'est celui du remboursement de la PMA, dont on parle déjà, puisqu'il y a déjà une pré-proposition de loi par un député En Marche qui justement ne fait pas état de ce remboursement.
Ah, mais alors, ils ne sont pas d'accord en fait. Il y en a un qui dit on ne veut pas rembourser comme les hétéros, il y en a qui disent mais pourquoi, il y en a qui disent mais non, moi je suis pour, il y en a je crois qu'on va attendre janvier.
Voilà, on attendra. Oui, de toute façon, ça sera l'occasion de faire des émissions très intéressantes. Ça suffit, en espérant que ça aboutisse.
Et en Espagne, je crois qu'ils reviennent sur la gratuité de la PMA.
Ah oui, sur la gratuité.
Oui, oui, là, ils veulent la rendre gratuite, ce qui a été supprimé.
D'accord. Moi, en France, je verrais plus le coup où ils déremboursent un peu, même pour les hétéros, pour que ça fasse moins de frais à l'État.
Pas de discrimination.
Puis je vois plus le truc comme ça.
Comme ils sont dans une optique d'économie. Bon, bref.
On verra bien,
Michel. Ça sera l'année prochaine. Nous, on reprendra début septembre. Fin août ou début septembre, j'en ferai.
On n'aura pas fini de lire les bouquins de Jean-Michel.
Mais on a dit qu'on pouvait, ça peut durer longtemps. Oui. Bernard nous a mis une petite musique de fond pour conclure. Vous savez que Bernard est écrivain aussi.
Oui.
Il a sorti un livre.
C'est un artiste.
Oui. S'appelle Les fantômes de la rivière. Que je vous conseille aussi, d'ailleurs. Bernard, il fait son timide, là, il n'ose pas parler.
Le taulier.
C'est vrai, tu as écrit un livre, Bernard.
Oui, c'est sûr, mais... je ne suis pas le meilleur vendeur de mon bouquin.
Ah oui, c'est vrai. Là, moi, je peux vous le dire, vous pouvez le lire, parce que c'est sympa, c'est bien écrit. Ça... Oui, bien sûr. Bon, attends. C'est bien écrit, c'est bien écrit. Ça se laisse lire. C'est un roman, un peu un roman d'été, justement. Hein. C'est facile à lire, mais c'est plaisant. Voilà, on va dire. C'est plaisant à lire. Oui, vraiment, je vous le conseille. Les fantômes de la rivière, aux éditions...
C'est Edilivre.
Edilivre, voilà.
C'est une maison d'auto-édition. Enfin, pas d'auto-édition, de. Enfin, bref.
Ouais, on a compris. On va conclure. Donc, merci Michel, merci Laurence.
C'est quoi, on entend quoi, là, du coup, la chanson?
Je sais pas, c'est quoi, vite.
Les Valentins.
J'ai une annonce.
Les Valentins.
Les Valentins. Alors, moi, si vous êtes à Paris, les Gay Games. C'est le 4 au 12 août, je vous le dis.
Okay.
Écran mixte dans une manifestation connexe, annexe de Gay Games, il y a une carte blanche. à Paris lors d'un festival qui s'appelle Cours sur Cours, le 7 août. Mairie du 4e, écran mix, carte blanche avec notamment la diffusion du film Vivant de Vincent Bougeon.
Excellent.
Non, mais tu pouvais laisser la musique. Hein.
Très bien.
Bon, c'était bien.
L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.